Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour à tous, je suis Ambroise et vous écoutez bien Culture Numérique. Vous venez de lancer un portrait qui va vous permettre de découvrir Rodolphe Ardan, fondateur de Spendesk. Bonjour Rodolphe.
Bonjour Ambroise.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Tu es un entrepreneur qui n'est pas à son premier coup d'essai, puisque tu as déjà revendu en 2013 une première technologie d'automatisation dans le domaine de la publicité. Tu es passé par Drivee, puis tu as rejoint un studio de start-up qui s'appelle eFounders pour lancer Spendesk, dont on va parler justement aujourd'hui, et dont la dernière Spendesk s'élève à 35 millions fin 2019. Merci une fois de plus d'avoir accepté cette invitation, parce que je pense qu'on a plein de choses à se raconter, surtout toi, que tu nous racontes ton parcours. Alors je te propose qu'on se lance tout de suite dans le grand bain. Parcours exemplaire, Rodolphe, quand on regarde ton LinkedIn et qu'on regarde tout ce que tu as déjà réussi à faire, quand on arrive à vendre sa première entreprise comme tu l'as fait, on en monte une deuxième, si je comprends bien, c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire très vite, au bout de quelques mois, quelques années, tu t'es dit, allez, je me relance dans le bain.
Oui, je pense que, enfin, si on reprend un peu mon parcours, je suis un ingénieur de formation, mais j'ai tout de suite commencé ma carrière comme entrepreneur, sorti d'école, avec un camarade de promotion à l'époque. Pourquoi l'entrepreneuriat ? Je pense que j'ai toujours été quelqu'un qui aimait résoudre des problèmes complexes, trouver des solutions à des problèmes, à corriger des choses que je trouvais qui ne marchaient pas, et un peu d'avoir cette liberté pour être capable de le faire. Donc c'est quelque chose qui m'a toujours attiré. Et sorti d'école, voilà, on a tout de suite démarré du coup avec un camarade, et on a fait plein d'erreurs d'ailleurs sur notre première boîte, plein d'erreurs que n'importe quel jeune ingénieur fait, dont la première était de construire une solution très technique qui était magnifique, mais qui ne répondait à pas vraiment de problème.
Pour la beauté du geste, en fait, vous l'avez fait.
À l'époque, on pensait qu'il y en avait un, mais en fait, oui. on finit par être plus, être plus intéressé par la beauté de la techno qu'on est en train de construire que finalement le problème qu'on est en train de résoudre. Ça a été une bonne leçon, mais on a été extrêmement tenace. On a itéré deux fois sur différents projets, et finalement, ça s'est très très bien terminé, puisqu'on a revendu cette entreprise à Solocal en 2013. Ensuite, après Solocal, j'ai rejoint une autre startup qui s'appelle Drivee. Donc cette fois-ci, pas en tant qu'entrepreneur, mais en tant qu'employé.
Ça s'est fait rapidement, cet enchaînement ?
Je suis resté un an chez Solocal. Donc là,
qui est toujours un peu la chose classique, on va dire, quand on revend, on reste pour faire la transition. C'est un peu ça l'idée.
On reste pour faire la transition. On essaye de voir aussi comment ce que la technologie va être prise et se développer au sein de la nouvelle entreprise. Et à l'époque aussi, dans quel environnement de travail est-ce qu'on a envie d'être. Et c'est sûr que moi, j'étais beaucoup plus à l'aise de rejoindre des environnements qui étaient plus agiles que des environnements un peu plus développés, un peu plus organisés.
Donc il n'y a pas eu de temps mort à se dire, à un moment donné, tu te dis, tiens, j'ai vendu, je vais respirer, je me suis donné à fond là sur cette entreprise, j'ai testé différents business models, je suis un peu essoufflé, je me ressource et j'y retourne. Non, c'est une suite en quelque sorte.
Ouais, c'est pas trop dans ma personnalité. C'est pas trop dans ma personnalité. Je pense que je suis quelqu'un qui est assez un peu hyperactif parfois, et donc je fourmille souvent d'idées. Et à partir du moment où je recommence à, enfin, l'action me manque rapidement. Et ensuite, chez Drivee, ce que je voulais voir, c'était la phase d'après, c'est-à-dire que nous, on était vraiment dans une phase très early avec cette première entreprise, sur une techno très 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 complexe, et je voulais voir une entreprise qui était vraiment en phase de grosse croissance. Donc je me suis occupé des opérations là-bas, et où là j'ai vu des nouvelles opportunités de business, et ce qui m'a conduit à rejoindre eFounders et créer Spendesk.
D'accord, donc là on voit bien l'enchaînement et comment ça s'est produit. Si un jour on va va revenir sur ton parcours, comment ça s'est passé sur Spendesk. Là, je vais un peu vite, mais, et je pense pas que ce soit un projet actuel. Mais si tu cèdes Spendesk un jour, est-ce que tu es quasiment sûr que tu continueras à monter un troisième concept, une autre entreprise? Pour toi, maintenant, c'est sûr, en quelque sorte, c'est marqué au fer rouge, tu es un entrepreneur et tu entreprendras toujours?
Je pense que oui, mais en fait, dans cette aventure entrepreneuriale là qu'on a démarré avec Spendesk, finalement j'avais deux objectifs un peu personnels. C'est un, de construire quelque chose qui est extrêmement ambitieux sur du long terme. Et donc ça, c'est le premier objectif, c'est vraiment ce côté très ambitieux sur ce qu'on peut faire en termes d'impact des solutions qu'on peut construire. Et deux, finalement essayer de construire une entreprise dans laquelle je suis heureux de travailler, je suis heureux de me lever tous les matins pour aller au travail, et pour lequel tous mes collaborateurs ont le même sentiment et la même chose. Donc en fait, je ne suis pas dans une logique de construire une boîte pour pouvoir la vendre et finalement passer à un autre problème. Là, je suis vraiment dans une logique où comment est-ce qu'on peut arriver à créer quelque chose sur du long terme qui apporte une valeur et un impact fort.
Je vois, et je pense que ça fait écho aussi à beaucoup d'entreprises, et c'est peut-être la dérive, le défaut qu'on voit aujourd'hui dans le domaine des startups. Il y en a beaucoup qui aujourd'hui sont juste dans une logique spéculative et de se dire, je me donne à fond pendant 3 à 5 ans, et si j'arrive à créer cette jolie courbe de croissance, tac, je vais pouvoir faire un exit, et bon, bah en fait mon histoire, elle se termine là. Toi, t'as du mal avec ce genre de concept?
Ouais, je pense que c'est pas dans ma philosophie. Pour moi, si on prend l'exemple de ma première entreprise, la cession, elle était dans une logique où c'était la meilleure chose à faire pour le futur de l'entreprise à cette époque-là. En gros, nous, on avait un profil extrêmement tech avec mon cofondateur. Si on voulait développer cette entreprise, il fallait apporter une ADN très, très commerciale, parce que c'est dans le domaine de la publicité. On pensait que c'était pas notre ADN. On pensait que du coup, ce local avait cet ADN-là, et donc ça faisait énormément de sens pour l'avenir de l'entreprise de pouvoir converger ces deux forces. Je pense que entreprendre pour une logique purement patrimoniale, en fait, finalement, je vais faire une plus-value puis je vais devenir riche, c'est pas les bonnes raisons. C'est pas les bonnes raisons parce qu'entreprendre, c'est difficile. Il faut être passionné par le problème qu'on résout pour pouvoir finalement tenir cette charge, parce que le quotidien d'un entrepreneur, c'est résoudre des problèmes, et des problèmes, il y en a tout le temps.
ça fait écho à ce que tu disais au départ, ce côté ingénieur, de se dire j'ai des problèmes sous les yeux, puis à moi de trouver les solutions au fur et à mesure, et on les abat. C'est intéressant, mais oui, c'est vrai qu'on peut se poser la question de combien de temps ça peut durer, cette motivation uniquement mercantile, uniquement liée à l'argent. On va peut-être revenir sur Spendesk, parce qu'on était assez vite, je pense que beaucoup le connaissent, mais s'il fallait que tu nous fasses le pitch type de Spendesk, nous rappeler en quelques mots, l'outil, c'est quoi?
Alors, Spendesk, c'est une plateforme qui permet de gérer les dépenses opérationnelles au sein de l'entreprise, donc finalement qui permet aux équipes financières d'avoir un process qui leur donne une visibilité et un contrôle sur l'ensemble des dépenses opérationnelles. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire lorsque les employés ont besoin de dépenser de l'argent de l'entreprise, mais un process qui va permettre également aux collaborateurs d'accéder à l'argent de l'entreprise quand ils en ont besoin, avec une expérience de paiement moderne. En fait, le problème qu'on veut résoudre, il est assez simple. Moi, je suis parti d'un constat où, dans sa vie privée, dépenser de l'argent, aujourd'hui, c'est une expérience qui est quasiment transparente, immédiate. On peut aujourd'hui acheter n'importe quel produit et service pratiquement en cliquant sur un bouton dans une application. Et il y a un décalage qui est énorme entre cette expérience privée et l'expérience dans le monde professionnel. Finalement, c'est normal. On ne dépense pas son argent dans mon entreprise, on dépense l'argent de l'entreprise. C'est extrêmement sensible, hein, de permettre à quelqu'un finalement de dépenser de l'argent qui ne lui appartient pas. Et la manière dont aujourd'hui on résout cette problématique de contrôle, c'est de la centralisation de process qui rajoute énormément, finalement, beaucoup de bureaucratie, de contraintes et de frictions opérationnelles. Et finalement, il y a deux choses dans lesquelles je crois énormément en termes d'organisation. La première, c'est justement dans des organisations qui sont très décentralisées. Comment est-ce qu'on peut donner de l'autonomie, de la responsabilité aux collaborateurs c'est finalement qu'ils soient maîtres et décideurs de leur périmètre d'action. D'ailleurs, bah, inspiré par le livre Liberté Incorporated,
Freedom Incorporated. Tu souris parce que le livre est sur la table juste à côté de nous,
exactement.
Il était posé là.
C'est le nom d'une salle ici. Mais donc ça, c'est quelque chose dans lequel je crois énormément. Et la deuxième chose, c'est je suis complètement allergique à tout ce qui est contraintes administratives, tout ce qui est bureaucratie, où finalement, je vois ça comme des contraintes qui nous permettent pas, qui n'apportent rien sur notre capacité à bien faire notre travail.
Alors, je vois bien ce que tu veux dire, Rodolphe, mais est-ce qu'il n'y a pas un côté d'idéaliser et de se dire qu'en fait, ça fait partie du game, du jeu, de se dire que quand on a un poste, il y a une partie toujours qui est un peu plus bien difficile, embêtante, qu'on n'a pas envie de gérer, mais qui fait partie de l'ensemble, du package en quelque sorte. Tu ne le vois pas comme ça, toi ?
Je pense que dans un job, il y a toujours des choses en termes de responsabilité qu'on doit faire. C'est sûr. Néanmoins, la technologie aujourd'hui nous permet de nous affranchir d'énormément de ces contraintes. Et lorsqu'on parle de paiement, lorsqu'on parle de dépenses, vu qu'il y a le sujet de l'argent est tellement sensible que rapidement, on nous rajoute énormément de contraintes. Et finalement, on nous demande de faire un travail qui n'est pas lié à la valeur, juste à notre job. C'est-à-dire quand on demande à un ingénieur d'aller remplir des données financières, c'est quelque part, c'est pôle de responsabilité de la finance. Et ça n'a rien à voir avec le fait qu'il soit un bon ingénieur. Et en fait, si on se projette là-dedans, le problème que je voulais résoudre, c'est vraiment ça, c'est de se dire comment est-ce qu'on peut à la fois garantir les exigences qu'une entreprise peut avoir sur le contrôle de son argent, qui est quand même extrêmement important, tout en permettant une expérience et une agilité opérationnelle forte au niveau des équipes opérationnelles.
Parce que là, c'est bien cela dont il s'agit quand tu évoques le sujet de la confiance, de la transparence. C'est quelque chose de culturel dans l'entreprise, plus que vraiment technologique. Si j'entends ce que tu dis, c'est de dire moi, les technologies, mes équipes, on est capable de les développer très simplement, mais on nous demande de rajouter des choses qui sont même un peu à côté de la plaque, mais qui rassurent juste. Est-ce que du coup, on peut dire aussi que Spendesk, sa manière d'agir, est-ce que tu as dû intégrer dans Spendesk, c'était justement essayer de rassurer avant tout les entreprises en disant « vous inquiétez pas, tout va bien se passer ». En général, les collaborateurs sont pas là pour piller l'entreprise, pour piller les budgets et pour partir le plus loin possible dans le monde avec une valise remplie de billets verts.
Tout à fait, mais je pense que c'est un vrai sujet que tu abordes parce que l'argent, c'est très émotionnel. C'est-à-dire, si on réfléchit même à sa vie privée, à qui est-ce qu'on donnerait accès, par exemple, à son compte bancaire ?
Et là, d'ailleurs, il doit y avoir des différences culturelles entre les pays. On sait qu'aux États-Unis, on parle beaucoup plus facilement d'argent, d'ailleurs, personnel, qu'en France, ou même donner son salaire, c'est pas quelque chose qu'on apprécie, qu'on va pas donner à tout le monde.
Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Mais même au-delà de ça, c'est-à-dire que je pense que c'est quelque part, c'est humain, ce côté où l'argent, bah, finalement, ça nous demande du contrôle parce que, enfin, on en a besoin, ouais, même dans sa sphère privée. C'est-à-dire, par exemple, il y a des personnes qui vont se marier ensemble, qui vont se promettre de vivre leur vie ensemble, ils vont quand même séparer leur compte bancaire.
C'est vrai.
Quand même particulier. Donc, imaginons dans le contexte de l'entreprise de se dire, finalement, comment est-ce que je permets à quelqu'un de dépenser de l'argent qui ne lui appartient pas? C'est assez stressant. Naturellement. Donc nous, cette culture finalement d'autonomie, de responsabilisation, on appelle d'ownership, elle est difficile à mettre en place à partir du moment où on parle d'argent. On peut se dire, je veux avoir ce type d'organisation, je fais confiance à mes collaborateurs, mais jusqu'à quel montant ? Voilà. Donc l'argent, quelque part, quantifie ce degré de confiance. Avec la plateforme qu'on est en train de construire, elle permet finalement d'avoir ce niveau de contrôle, ce niveau de transparence, tout en permettant la bonne autonomie au niveau des collaborateurs.
Je vois, donc c'est vrai que ça va résoudre pas mal de problèmes différents et certainement de fluidifier ces prises de décision, en tout cas la confiance qu'on va donner aux collaborateurs. Je suppose que toi aussi, tu l'as vécu dans ton entreprise. Aujourd'hui, Spendesk, c'est combien de collaborateurs ?
Alors aujourd'hui, on est 160.
160, on a vu le plateau en arrivant, vous avez quand même un super beau plateau. On voit qu'il y a de la place, donc à mon avis, des prévisions de croissance à encore ajouter de nouvelles équipes. Les process, toi-même, de confiance à l'intérieur de l'entreprise, tu as réussi à les mettre en place. Est-ce que toi-même, tu as rencontré des barrières, des difficultés à un moment où tu t'es dit, mince, ça paraît évident, mais en fait, quand on est dans l'opérationnel, laisser des responsabilités, justement, sur la gestion aussi de l'argent de Spendesk, quand on parle d'une levée de plusieurs millions, on sait qu'il faut dépenser rapidement pour trouver des leviers de croissance et en même temps, il ne faut pas faire n'importe quoi. C'est quoi ton mantra, toi, un peu dans ces sujets, justement ?
Bah, nous, on a une organisation qui a grossi énormément au cours des derniers mois. On est passé de 25 à 160 en 18 mois. Donc, justement, ce type d'organisation qui grossit très vite, l'aspect culturel qu'on met au sein de son organisation est très important pour pouvoir supporter ce type de croissance. L'approche que j'ai eue depuis le début de Spendesk, finalement, c'est les convictions que j'ai initialement, c'est comment est-ce qu'on peut donner énormément d'ownership et d'autonomie à mes collaborateurs. Donc moi, je leur ai donné très rapidement les clés de la voiture, finalement, sur leur scope, avec toutes les responsabilités de pouvoir construire ce qu'il fallait qu'ils construisent. On n'a pas eu, justement, de friction qui était liée à ça. Au contraire, je pense que ce type d'organisation permet d'avancer plus vite, permet de s'adapter beaucoup plus rapidement à son environnement.
Quand tu dis tout cela, on frôle à un certain sujet qu'on fantasme souvent, qui est aussi l'entreprise libérée. On n'en est pas là, évidemment, dans tout ce qu'on a dit, mais il y a un premier pas dans ce côté d'autonomie, de confiance, de transparence, de dire oui, pourquoi on me voudrait du mal dans mon entreprise. Et pourtant, on sait que il y a des choses qui peuvent faire revenir les pieds sur terre très rapidement, que ce soit des fois le board qui est pas du tout dans ses manières de faire, que ce soit aussi les rapports humains dans l'entreprise, le côté carriériste qui peut reprendre aussi le relais. Ça doit être difficile en fait de gérer ça au quotidien entre toi, ton idéal, ce que tu voudrais faire, et puis de se dire qu'on a une certaine taille, on est obligé de mettre du cadre en quelque sorte.
Alors l'autonomie ou la décentralisation, ça ne veut pas dire ne pas avoir de structure, ne pas avoir de cadre. C'est très important d'avoir un alignement très clair des personnes sur les objectifs ou les problèmes qu'on cherche à résoudre. Autrement, c'est complètement chaotique, tout le monde va dans n'importe quelle direction et finalement l'entreprise ne se développe pas, n'arrive pas à se développer. Le cadre, il est plutôt dans comment est-ce qu'on s'assure qu'il y ait une communication qui soit très claire sur où est-ce qu'on veut aller, la vision, grosso modo, où est-ce qu'on veut aller, où est-ce qu'on se projette dans un an. Et ça, je vois ça comme des périmètres de responsabilité. Il y a une personne qui est responsable de se dire, OK, où est-ce qu'on a envie d'aller, où est-ce qu'on a envie d'être. Ça, par exemple, c'est mon rôle. Ensuite, quels sont les problèmes qu'on doit résoudre pour pouvoir arriver là. Donc là, c'est plutôt pareil, il va y avoir des personnes qui vont réfléchir à cette stratégie pour pouvoir y arriver. Okay, c'est quoi ? En gros, exprimer les problématiques qu'on a besoin de résoudre. Et ensuite, chaque collaborateur, dans son scope, dans son périmètre d'influence, dans son périmètre de responsabilité, finalement, quel plan d'action est-ce que je vais mettre en place ? Comment est-ce que je vais organiser mon travail pour pouvoir résoudre ces problèmes ? Mais pour ça, j'ai la liberté de choisir les différentes options que je veux avoir pour pouvoir y arriver. Donc la décentralisation, ça ne peut marcher qu'avec un alignement qui est très fort. D'un premier point. Et le deuxième point, ça ne peut marcher qu'avec une transparence totale à tous les niveaux. C'est-à-dire que si on ne partage pas les problèmes qu'on doit résoudre, les difficultés qu'on peut avoir, les succès qu'on peut avoir, là, on crée du désalignement. Et donc, on se retrouve avec des personnes qui ne savent pas vers quoi, où est-ce qu'ils doivent aller, vers où ils peuvent ramer. Et c'est un peu, oui, l'image, c'est ça, c'est une barque avec des rameurs qui sont complètement désynchronisés, ça n'avance pas.
Ça fait plaisir d'entendre ce genre de vision, parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui souffrent aussi dans leur travail à se dire « je me suis fait arnaquer, on m'a vendu un poste, je suis arrivé dans l'entreprise, et en fait, les belles missions dont on me parlait, je me fais prendre par les enjeux, comme je disais tout à l'heure, peut-être carriériste, de combat interne, ou de caractère fort qui font subir aux autres dans l'entreprise. Est-ce que déjà toi, dans ton parcours, t'as déjà eu l'impression justement de se dire « punaise, j'ai pas signé pour ça, moi, en fait, là, je suis en train de faire quelque chose, et c'était pas ça au départ, comment ça se fait, mais il y a une déviation, et je me retrouve là. T'as déjà ressenti cela ?
Personnellement, je l'ai pas ressenti. Là où je l'ai un petit peu subi, c'était chez Solocal, où là, c'était plutôt, les décisions étaient extrêmement centralisées, et donc finalement, il y avait un problème d'alignement, c'est-à-dire qu'il y avait des efforts qui étaient faits, et la décision finale qui disait, finalement, on ne va pas faire ça, alors que ça fait 3 mois qu'on travaillait sur un sujet. Donc là, c'est plutôt des problématiques de frustration liées à un manque de clarté, un manque de transparence sur les goals, les objectifs qu'on a envie d'atteindre. Mais j'entends ton point, je pense que ce côté transparence à tous les niveaux. Quand je dis à tous les niveaux, on pense à un niveau vertical, mais l'important, c'est le niveau horizontal. C'est-à-dire, si les collaborateurs ont... Si il y a une culture au sein de l'entreprise du feedback qui est extrêmement forte, avec la bonne formation pour pouvoir y arriver à tous les étages. Finalement, ces problématiques humaines dont tu parles, qui sont peut-être qu'il y a une personne qui va aller attaquer le périmètre d'une autre personne, si finalement il n'y a pas un retour d'expérience en disant « Écoute, là, je comprends que tu as envie de m'aider, mais finalement, laisse-moi essayer d'y arriver », oui, en effet, ça ne va pas marcher. Donc là, c'est là où la culture d'entreprise est extrêmement importante. C'est là où il faut être très vigilant, finalement, sur ces différents échanges, sur cette manière d'être, sur ces comportements qui doivent rentrer dans ce type dans la culture de la boîte et dans nos types d'organisation.
Je parlais récemment avec un directeur d'école, une école qui fait plutôt tout ce qui est graphisme, 3D, etc. Et il est dans ce métier-là depuis 20 ans et il est ultra surpris parce que la nouvelle génération est prête très vite à enclencher le statut d'auto-entrepreneur, de se mettre free et se dire « je le ferai moi-même ». Et qu'on leur demande pourquoi, parce qu'il y a des offres d'emploi qui arrivent dans cette école, de grosses agences de communication, des postes sur les plateformes de marque, ça veut dire le graal de la communication, là où à l'époque peut-être il y aurait eu des bagarres dans le couloir et on n'aurait pas eu peur de casser le genou de l'autre pour avoir ce poste, et bien là ils n'y vont plus, les agences sont totalement surprises, il y a un gros problème de recrutement, parce que c'est de se dire ah non mais aller sur Paris, me faire ses horaires, être payé tant, tout ça pourquoi au final, non je préfère faire mon projet qui m'épanouit. Est-ce que tu as l'impression que ça c'est générationnel? Est-ce que toi dans ton domaine, dans le milieu des startups, des métiers digitaux, tu le rencontres aussi, cette difficulté de recrutement où justement le discours que tu nous as tenu, il est on va dire indispensable, parce que sinon, s'il n'y a pas cette patte blanche qui est montrée, on préfère, et les personnes préfèrent faire leur propre bout de chemin et pas s'embêter à se forcer d'être dans une structure qui serait trop contraignante.
Je pense qu'il y a un enjeu en effet générationnel là, mais finalement, c'est, si on se projette, on passe 30% de notre vie au travail, à travailler. 30%, c'est quand même significatif. Si on a la chance de pouvoir le faire, et je pense que la plupart des personnes vont aspirer à ça, s'il n'y a pas de passion dans ce qu'on fait, pénible. Je suis convaincu que ce qui nous permet d'être performants, c'est parce qu'on est, c'est la passion de ce qu'on fait au quotidien. Cette logique dont tu parles, de se dire finalement je vais être auto-entrepreneur parce que je vais avoir cette liberté, je vais m'affranchir de toutes les contraintes que je peux avoir et je suis passionné dans ce que je fais, finalement je vais arriver à en vivre tout seul, elle peut être très saine. Elle peut être très saine et je pense que c'est une nouvelle manière qu'on peut de voir le travail, c'est-à-dire que j'ai une certaine expertise que je veux pouvoir développer, j'ai une certaine passion dans quelque chose, finalement je peux l'exprimer et une entreprise peut en avoir besoin de manière ponctuelle ou de manière cohérente. Donc une entreprise doit aussi apprendre à travailler avec ces personnes-là. Nous, si on prend un peu l'historique de Spendesk, on a beaucoup travaillé avec des gens qui étaient en free et qui ont décidé à un moment de rejoindre notre organisation.
Donc dans l'autre sens.
Pour moi, c'est plus cette manière de travailler sur laquelle les entreprises doivent s'adapter, doivent être compatibles, doivent être OK, où finalement, les gens aujourd'hui ne vont pas aspirer en tout cas à travailler pour une partie purement monétaire, mais plutôt pour une partie passionnelle, donc avec un engagement sur une mission, un engagement sur une culture, un engagement sur une organisation.
Que dis-tu à ceux qui pensent que le travail rime avec concession, avec souffrance? Des fois, je suis étonné de parler avec certaines personnes pour qui ça va de soi. Au bout d'un moment, le travail, c'est pas fait pour être rigolo, c'est pas fait pour passer un bon moment. On est là un peu pour cette vision un peu archaïque du travail. En quelque sorte, si on n'a pas sué un peu, on ne mérite pas son salaire.
Je pense que c'est des personnes qui peut-être n'ont pas justement réussi à trouver le but, le pourquoi de ce qu'ils faisaient. Donc ce côté un peu passionnel dans ce qu'ils font. Après, normalement, quand on est passionné par ce qu'on se fait, la difficulté n'en est pas une. Mais dans tout effort, dans tout travail, il y a de l'effort. Apporter de la valeur ou construire quelque chose, ça demande en effet des efforts. Mais l'histoire, là, pour moi, ce qui est important, c'est finalement pourquoi est-ce qu'on fait ça? Quel est le but? Si c'est juste, fournir de l'effort sans avoir de résultats ou sans avoir d'impact, à quoi bon? Oui, je note ton point, mais je pense que j'engage toujours, en fait, à réfléchir à pourquoi est-ce qu'on fait, pourquoi est-ce qu'on fait ce qu'on fait ? Est-ce que ça a du sens ? Est-ce que c'est vraiment ce que j'ai envie de faire ? Si c'est pas le cas, si on trouve pas l'élément qui va nous driver, qui va nous passionner, oui, on va voir ça comme on va subir en fait.
Je me souviens d'une personne assez importante pour moi qui m'avait donné 3 questions toujours à se poser sur ce qu'on fait au quotidien. 3 niveaux de questions. Le premier, c'était comment je le fais? Un truc très simple. J'ai mon tableur Excel, je remplis les chiffres, ça me permet de suivre ma croissance, etc. Ok, c'est le côté très terre à terre. Deuxième sens de la question, c'est celle, je pense, que tu poses, hein, qui est pourquoi je le fais? Quel sens ça a pour moi? Qu'est-ce qui m'anime dans tout cela? Et le troisième niveau, peut-être des fois qu'on oublie ou c'est difficile de prendre ce recul, c'est quels intérêts je sers en faisant cela? Ça veut dire qu'est-ce que je nourris au global. On sait qu'il y a quelques désillusions qui se font en ce moment sous fond de collapsologie, sous fond de problèmes écologiques. On a l'impression que tout est un peu bancal, en déséquilibre, que ça pourrait se retourner en très rapidement. Toi, t'arrives à tenir le cap quand justement tu te dis je suis dans le milieu du logiciel, du digital. Ok, je vois que là, l'horizon 10, 20, 30 ans dans une société comme la nôtre aujourd'hui, c'est pas si évident de savoir où on en sera. Est-ce qu'on aura fait un énorme retour en arrière? Est-ce qu'on aura fait un énorme bond en avant. T'arrives à prendre ce temps de réflexion perso?
Oui, le programme est rythmé, mais ça fait partie. La réflexion du but et de la mission qu'on a envie d'avoir, elle est toujours présente, elle doit être toujours présente. À notre niveau, au niveau de l'entreprise, c'est quelque chose qu'on se répète. Pourquoi est-ce qu'on est là? C'est quoi notre mission? À quoi est-ce que ça sert? Quel est l'impact de ce qu'on est en train de faire? Alors, on n'est pas en train de sauver des vies, c'est sûr. Mais à notre niveau, sur les choses dans lesquelles on croit, sur justement comment est-ce qu'on peut permettre aux entreprises d'avoir une culture un peu plus autonome, avec plus de confiance, et comment est-ce qu'on peut les libérer de toutes les contraintes qu'ils peuvent avoir au quotidien, c'est quelque chose qui nous anime. C'est un problème qu'on a envie de résoudre. C'est quelque chose dans lequel on se projette. Donc ça, c'est à notre niveau. Ensuite, finalement, comment est-ce qu'on peut permettre d'avoir un impact plus large, un peu plus méta vis-à-vis de ça ? Ma conviction, c'est l'impact qu'on peut avoir lorsqu'on est petit au niveau individuel, il est important, mais il sera toujours moindre que l'impact que peut avoir en effet beaucoup de personnes qui vont travailler sur le même sujet. Donc ma stratégie là-dessus, c'est plutôt de se dire, d'abord, on a notre mission qui est assez claire, construisons quelque chose qui a énormément d'impact, et après réfléchissons comment est-ce que cette chose-là, ce qu'on a construit, permet de servir des intérêts qui peuvent continuer à être plus grands.
Ce qui sort de l'immobilisme, qui est aussi un piège à ses pensées, qui font tout d'un coup, tout ce que je fais c'est mal, je ne fais plus rien, et ça aide pas plus, je le pense. Merci Rodolphe de nous avoir partagé toutes ces pensées, toutes ces choses que tu as vécues aussi. Je sais pas si tu veux rajouter un petit mot, si tu veux parler de Spendesk, d'actualité chaude, de ce qui va arriver, si tu veux partager certaines choses, si tu veux qu'il y ait des personnes qui rejoignent aussi tes équipes dans Spendesk, tu recherches du monde.
On recherche beaucoup de monde en ce moment, on a envie de doubler les effectifs en fin d'année. On a ouvert 2 bureaux, un bureau à Londres, un bureau à Berlin actuellement. Donc oui, on se développe très très vite. On est une équipe qui est très internationale. On a à peu près 40% des personnes chez Spendesk qui sont finalement des internationaux. Une culture qu'on a construite très rapidement dans ce sens-là. Oui, nos enjeux pour nous, c'est finalement de devenir ce nouveau standard du paiement au travail. Comment est-ce qu'on peut apporter cette paix d'esprit aux entreprises lorsqu'on parle d'argent, lorsqu'on parle d'un sujet aussi sensible que l'argent. Et en effet, les prochaines années vont être particulièrement excitantes en termes de croissance et en termes d'aventure.
On va suivre ça sur cycledigital.fr. Merci encore une fois de nous avoir accordé ce temps. Et puis, on se dit à très bientôt.
À bientôt, Ambroise.
Salut. Au revoir.